Français.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler. Parler.
Ouais, souvenir. Depuis la Révolution française, depuis 1789, droite et gauche ont fait vivre l'alternance dans un balancier révélateur. Dans la série « Chacun son tour ». Et depuis 223 ans, depuis la Révolution française, grosso modo, ça a été du 50-50. C'est pas la première fois que la gauche arrive au pouvoir, loin de là. Et sans remonter au calende grec, la gauche, socialiste le plus souvent, s'est emparée du pouvoir national. Rappelez-vous, 1936, 1947, plus récemment 1981, 88, 97, et combien de fois, après quelques avancées sociales, a-t-elle décrété la pause ? Pour en revenir à des pratiques libérales déguisées sous les apparences d'un discours social, faute d'être socialiste. Bon, la chose, souvent, a déboussolé quantité d'électeurs, et quand on écoute un petit peu François Delacroix qui nous le disait tout à l'heure, c'était dans la série... En tant que socialiste, je vais bien, mais en tant que français, tout va mal. Et donc, il nous prépare là, des hausses d'impôts, à une pause pratiquement anticipée.
On vient de vivre 30 ans de laxisme des différentes majorités par rapport à...
30 ans, c'est-à-dire depuis 1981.
Oui, on a endetté la France d'une façon exorbitante. On aurait dû être plus sérieux dans ce domaine-là. Hein. Donc aujourd'hui, on est face à une réalité, il faut qu'on l'assume et il faut qu'on parle franchement aux gens pour dire que dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, ça va être difficile. Hein, et on ne va pas raser gratis.
Oh, mais ça, on l'entend depuis 1973, depuis la crise, ou la soi-disant crise de 73. C'est la crise, il faut serrer la ceinture. Et, alors, ça a eu tous les noms, des plans de rigueur, des plans d'austérité, il y a eu tous les noms possibles et imaginables. Et puis, quand la gauche est arrivée au pouvoir en 80, ça, c'était, on avait changé la vie. Et puis, dès 82-83, à l'initiative de Jacques Delors, bah, c'était « Ah, il faut faire une pause, on est allé trop loin ». Bon, bref, ça fait 40 ans qu'on nous le rabat que c'est la crise.
Des politiques. Cette année, c'est pas justement le prix de l'enthousiasme européen.
Mais non, je crois pas. Faut pas faire de l'anti-européen.
Non, mais c'est pas faire de l'anti-européen que de constater les choses. C'est de dire qu'effectivement, quand même, quelque part, bon, l'Allemagne a absorbé la RDA. Il y a eu une ouverture à d'autres pays. Il y a eu bon.
Non mais la croissance, la croissance sur l'Europe. Je crois pas que l'Europe, nos concitoyens... Vous savez, il y a un argument face au Front National qui les déstabilisait beaucoup de leurs candidats, c'était celui de la sortie de l'euro. Parce que je crois que nos concitoyens n'ont pas envie de ça. Je pense que si on voit les résultats en Grèce, effectivement, sont importants. Mais on a un vrai clivage en électorat. Vous parliez de clivage droite-gauche. Le vrai clivage aujourd'hui que j'ai ressenti depuis le début de la campagne présidentielle, c'est le clivage entre l'électorat... qu'on pourrait dire responsable ou résigné, selon que vous soyez de ce côté-là de la barrière ou pas, et l'électorat contestataire, ou du moins révolté, selon du côté où vous allez être. Et vraiment, ce clivage-là, il a marqué la campagne présidentielle autour de deux primaires, qui étaient celles de Marine Le Pen et de Mélenchon d'un côté, et de Hollande et de Sarkozy de l'autre. In fine, c'est Sarkozy qui s'est retrouvé face à Hollande. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur les législatives, l'électorat responsable... Il a fait son choix et il a été légitimiste par rapport à l'élection de François Hollande. Et c'est pour ça qu'il y a une telle vague rose. Et l'électorat contestataire, lui, s'est trouvé un nouveau champion en perdant Mélenchon, qui au passage, d'ailleurs, ce que vous dites sur Bayrou, moi je tiens Bayrou pour responsable de la situation de la France aujourd'hui parce qu'il a fait une erreur historique en 2007. Et malheureusement...
Il a annoncé en 2007 que la crise arrivait.
Oui, mais pas sur le diagnostic, mais en tant que responsable politique. Mais on va y revenir parce que la digression va me faire perdre le fil de mon propos. Je voudrais terminer. Simplement, donc, par rapport à cet électorat-là, on voit bien que l'électorat contestataire, lui, s'est trouvé un nouveau champion avec le Front National. Et malheureusement, ce clivage-là, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'on n'est pas à l'abri, en 2017, d'avoir un second tour Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas impossible.
Pour revenir à la participation, hein, les politologues hier expliquaient à la télévision que c'était les milieux populaires et les 18-25 ans qui n'avaient pas voté. Ça doit nous interroger. Les jeunes ne sont pas allés voter et les milieux populaires ne sont pas allés voter. Et quand ils sont allés voter, pour certains... Ils ont voté Front National.
Ouais, exactement.
Hein?
Front National, moi, Mélenchon, quantité de jeunes qui, au même moment de déposer le bulletin, hésitaient entre Le Pen ou Mélenchon.
Oui.
Mais quoi qu'il en soit, là, je serais assez d'accord avec Julien Devez, c'est le même électorat et c'est la même démarche. Contestataire, protestataire, révolté, peu importe.
Le hic, si vous voulez, c'est que le Front de Gauche, dans les terres ancrées, les terres gardoises, où le rouge est quand même ancré, sur notre circonscription, sur la première circonscription du Gard, le Front de Gauche, qui habituellement faisait plus de 10%, fait 7%. Alors qu'il devait profiter normalement de l'élan Mélenchon, qui avait fait 11,5% sur notre circonscription. Là, il y a une vraie désillusion, je pense, dans la façon dont la politique est menée. Et aujourd'hui, on va vraiment vers la bipolarisation de la vie politique. On va avoir des personnalités qui vont émerger. Mais en gros, dans les principales élections, ça va être bloc de droite contre bloc de gauche. Et donc, je reviens à la responsabilité historique de François Bayrou en 2007. C'est que s'il avait réussi à imposer à Nicolas Sarkozy, je pense qu'il aurait pu le faire, des réformes institutionnelles plus profondes que celles qui ont été menées, notamment par l'introduction de la proportionnelle dès le précédent tour de législative, je crois qu'on aurait pu avoir une société plus apaisée et un discours politique moins caricatural, où on a vu au cours de cette dernière législature une opposition qui allait se cacher derrière les colonnes de l'Assemblée nationale pour essayer de faire passer des textes en catimini, enfin par des espèces
de... Vous croyez que Sarkozy a facilité Bayrou de rentrer dans le gouvernement et de jouer?
Je pense que, alors vraiment, pour avoir été au centre de l'histoire, je sais que Sarkozy était prêt à tout accepter et que Bayrou n'en a pas voulu parce qu'il voulait être le premier opposant à Sarkozy et faire une OPA sur la gauche. C'était un pari. Moi, j'étais
mais ça n'empêche pas que je pense que c'est une erreur pour la démocratie qu'il ne soit pas à l'Assemblée nationale.
On est tout à fait d'accord, absolument d'accord.
Vous ne pensez pas que la protectionnisation affichée de Sarkozy, justement, empêchait Bayrou de faire ce que vous démêlez?
Mais en 2007, personne n'a accusé Sarkozy d'être droitier. En 2007, c'était pas ça. On l'accusait même de faire le jeu de la gauche en faisant la taxe carbone. Voilà.
C'est à partir de 2009 qu'il a suivi les conseils de son gourou.
De Patrick Besson.
Qu'il a choisi de droitiser sa politique.
D'un point de vue économique, le programme de François Bayrou en 2007 était plus libéral que celui de Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy proposait d'exonérer de charges les heures supplémentaires, François Bayrou, lui, proposait de créer 2 emplois francs par entreprise, c'est-à-dire exonérer totalement de charges. Je veux dire, là, en termes de cadeaux aux entreprises, comme on dit dans la dialectique gauchiste, il n'y avait pas d'incompatibilité. Hein.
Alors, si on en revient au gouvernement de gauche, je dirais depuis 1936 au moins, ils se sont toujours affrontés avec des puissances qu'ils ne savaient ou ne pouvaient maîtriser. Le mur de l'argent, en 1936, que dénonçait Blum. Le poids des mentalités, que finira par dénoncer Mitterrand, disant « on ne peut pas, les mentalités ». Les crises internationales. Alors, quelles seraient les marges de manœuvre aujourd'hui, du futur gouvernement et puis de son assemblée? Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche sait gérer le mur de l'argent, les mentalités et les crises internationales?
Moi, je pense que François Hollande, que je soutiens, gagne si dans les 3 mois qui viennent, ils prennent des décisions importantes et fondamentales. D'abord, un discours franc et direct à la population. Deuxièmement, une véritable rapprochement avec l'Allemagne, une véritable écoute.
Mal parti, hein?
Mais non, c'est pas mal parti, c'est la période. C'est la période aujourd'hui où ils sont en observation l'un par rapport à l'autre, avant, je l'espère, de se rapprocher. Et puis, l'opinion.
C'est une prussienne quand même, hein, Merkel. Hein.
Oui, mais faut pas faire de l'anti-allemand comme ça.
L'Allemagne, c'est
écoutez, ils ont réussi l'unification de l'Allemagne qui a coûté les yeux de la tête aux Allemands.
Oui, 1500 milliards d'euros.
Et ils ont une stratégie de développement qui a beaucoup de points intéressants et de points qu'il faut soutenir. Mm-hmm. Donc arrêtons de nous opposer avec l'Allemagne. Vous savez que si on ne fait pas le mariage franco-allemand, les Allemands iront du côté des Russes avec Poutine?
Absolument.
Et qu'on sera marginalisés?
Il me rappelle Rathenau en 1920-22, le grand risque du rapprochement entre l'Allemagne et puis la Russie.
Bien sûr,
et même Rathenau avait favorisé un rapprochement à l'époque de la République de Weimar avec la Russie bolchevique.
L'histoire se répète.
Absolument.
Vous êtes d'accord donc
là-dessus? Je suis totalement d'accord sur la nécessité d'un couple franco-allemand fort. Alors, quand on dit il faudra des mesures courageuses, bon, moi je regrette simplement que pour l'édification des électeurs, il n'y ait pas eu plus de transparence et plus d'annonces dans ce qui allait être fait par le candidat Hollande à la présidentielle et par ses candidats dans les législatives sur les mesures fiscales qu'il comptait prendre. Moi, je veux dire. ne se sont pas cachés de faire campagne uniquement en en disant le moins possible et simplement en capitalisant. Mais c'est le jeu. Bon,
c'est le jeu. Et puis, deuxièmement, on a dit très clairement qu'on allait augmenter l'impôt sur la fortune. Oui, mais on a dit très clairement qu'on allait taxer d'une façon forte les gens qui gagnaient plus de 1 million.
Alors, vous parliez.
Non,
mais d'accord, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je ne vais pas polémiquer. De toute façon, les gens le savent bien. Effectivement, s'ils avaient voulu se mobiliser, ils sentent bien de toute façon qu'il va y avoir un tour de vis. Et effectivement, s'ils avaient voulu se mobiliser, ils auraient donné peut-être plus de poids à l'opposition. Mais au-delà de ça, ce qui me paraît important, c'est que vous parliez du mur de l'argent. Effectivement, et la droite a aussi, face à elle, un poids des mentalités, a aussi des corps intermédiaires très forts, parfois bloquants. Et simplement parce que, effectivement, ce clivage droite-gauche fait que les syndicats ne veulent pas faire le jeu de la droite et peut-être les puissances de l'argent ne veulent pas faire le jeu de la gauche. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que quand on a la gauche au pouvoir, qu'elle s'attaque à ce qu'elle doit, ce que la droite n'a pas su faire. Je crois, en matière de sécurité et de justice, je crois que la gauche qui a décidé de sortir de l'angélisme, ça sera très bien si elle arrive à faire entendre un certain nombre de syndicats, notamment dans la magistrature, qu'il y a besoin de sortir de certaines postures idéologiques et de faire ce que le peuple demande, c'est-à-dire un certain tour de vis. Alors, vous allez me traiter de réactionnaire, hein, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire,
c'est que... Tout à l'heure que je vous disais, parce qu'il a caricaturé de nos deux personnalités, vous êtes le jeune et moi je suis le vieux. Je pense que c'est moi le jeune, avec les propos qui tiennent.
Mais je crois que les jeunes aujourd'hui, quand on voit le vote Front National chez les jeunes, je crois que les jeunes sont en attente de ça. Je crois qu'ils sont en attente ils sont pas vécus avec génération.
D'une bonne fessée.
Ouais, c'est ça. Mais ils ont pas nés avec la génération 68. Et aujourd'hui, ils disent que finalement, ce qui déstructure leur vie, c'est finalement une perte de valeur et que y a un moment donné où quand tout va pas très bien, quand on peut pas tout acheter avec l'argent, il faut aussi pouvoir retrouver les fondamentaux. Et ça en fait partie. Donc on attend la gauche là-dessus. On attend la gauche aussi sur peut-être des efforts d'un point de vue économique. Et je pense que notre devoir à nous, la droite et le centre, c'est d'être une opposition peut-être plus constructive que celle que nous avons connue et de savoir reconnaître les choses quand elles vont dans le bon sens. Et ça, j'espère que nos députés seront capables de le faire.
Écoutez, moi, il y a un chiffre dans Le Monde de cette semaine moi, qui m'a profondément choqué. Il comparait les gens les plus pauvres et les gens les plus riches. Les gens les plus pauvres de 2001 à 2011 ont un pouvoir d'achat qui a augmenté sur 10 ans de 9%. Les gens les plus riches de 127%. On ne peut pas continuer comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut de nouveau, d'une façon forte, faire un virage à 180 degrés avec une justice sociale plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui.
Justement, on parlait d'économie. Bon, maintenant, la gauche est au pouvoir. Elle est au pouvoir de partout, en haut, en bas, etc. J'ai une question, alors là, pour François Delacroix d'après, d'abord, et puis pour Julien Debèze aussi, Marx a-t-il encore une utilité ?
Écoutez, moi j'ai vu un débat dans le Nouvel Économiste qui opposait Alain Minc et un autre économiste, où Alain Minc considérait que Marx était toujours d'actualité et qu'il posait des problèmes en matière économique qui étaient réels, sur la plus-value, sur l'exploitation et sur beaucoup d'autres choses. Ça m'a beaucoup surpris de la part d'Alain Minc en sachant ses orientations politiques. Mais les idées de Marx, elles sont toujours présentes.
Mais
il ne faut pas les rejeter.
Avec une relecture du style Attali.
Du 21e siècle.
Du style Attali, où Attali faisait de Marx le premier des libéraux.
Avec une relecture du 21e siècle.
Oui, option Strauss-Kahn.
Une option Strauss-Kahn, oui. C'était pas un mauvais Strauss-Kahn.
Julien Debèze, est-ce que Marx a encore une utilité ?
Marx peut encore avoir une utilité à condition qu'on le prenne en compte au niveau mondial.
Ça, c'est le politologue de droite qui dit peu.
Oui, oui, oui.
Alors que lui, il n'a pas dit, le politologue de gauche, il a dit doit.
Je crois qu'il y a deux choses vraiment à prendre en considération. Moi, la question de la lutte des classes et de la répartition des richesses, c'est une question effectivement qui est centrale, mais elle doit se penser au niveau mondial. Parce que quand on parle effectivement des Français les plus pauvres, il faut aussi savoir regarder un peu plus loin, au-delà de nos frontières, au niveau mondial, si les Français les plus pauvres sont en correspondance avec la classe moyenne en Inde ou au Brésil. C'est aussi la question, elle doit aussi se poser comme ça et de ne pas raisonner en franco-français.
Il va nous dire, vaut mieux être pauvre chez les riches que pauvre chez les pauvres.
Il vaut mieux être pauvre chez les riches que moyennement riche chez les pauvres.
Oui, ça, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord qu'il faut mondialiser cette approche des choses. Mais aujourd'hui, on a une paupérisation de la population en Europe. On a de plus en plus de jeunes, d'enfants qui sont en difficulté. Quand je voyais le chiffre de l'UNICEF, quand on dit qu'il y a 10% des enfants de moins de 10 ans qui sont pauvres aujourd'hui, ça veut dire qu'ils n'ont pas 3 repas par jour. Dans notre pays, dans notre société. Et ça, ça me révolte. Je veux dire, on ne peut pas continuer.
On est d'accord sur ça. Mais le deuxième point,
c'est un sujet qui n'a pas été abordé au présidentiel, ni mon candidat, ni le vôtre. On a abordé ce problème de la pauvreté en France.
C'est la misère cachée dans France.
Ouais, mais le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'il faut aussi penser Marx à l'aune de l'heure écologique que nous devons vivre. Parce que les ressources énergétiques sur lesquelles nous avons construit notre richesse, elles ne sont pas illimitées. Et donc ça, c'est un point...
Toutes les ressources, pas qu'énergétiques, toutes les ressources naturelles.
Oui, naturelles et principalement énergétiques, non renouvelables, posent un vrai problème pour notre économie et pour notre modèle social. Parce qu'effectivement, vous dites qu'il y a des enfants qui ne font pas 3 repas par jour. Je ne suis pas sûr que ce soit 10%. Vraiment, au cours de cette campagne, nous, on a mis les pieds dans des endroits vraiment très difficiles où les gens vraiment vivent dans des appartements dont le reste de l'immeuble est en attente de destruction par l'ANRU. Bon, c'est une bonne chose que l'ANRU renouvelle l'urbanisme dans ces quartiers, mais il y a des gens qui vivent encore dans ces immeubles parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ben, ces gens, ils ne sont pas plus malheureux que beaucoup de Français dépressifs qui pourtant vivent matériellement très bien. Il y a des solidarités à réinventer, il y a un modèle de société à réinventer, mais malheureusement, ça passe par... Je crois qu'il faut qu'on sorte de nos présupposés idéologiques du fait qu'il y a les méchants riches d'un côté et puis les pauvres pauvres de l'autre. Je pense qu'il faut qu'on se regarde au niveau de la planète et qu'on arrive à faire des efforts, certes équilibrés, mais partagés.
Pour revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le bouclier fiscal a été une erreur économique et un scandale.
Oui, c'est vrai.
Donc on est d'accord. Et je pense que c'est l'une des motifs qui a amené Bayrou de ne pas rentrer au gouvernement.
Question de fond, l'argent, il se partage ?
L'argent se partage, mais l'argent...
Non, parce que toutes les oppositions politiques, elles sont basées sur cette règle-là. Est-ce que l'argent se partage ou pas ? Est-ce que les gens, quels qu'ils soient, quel que soit leur degré de fortune, sont prêts effectivement ou pas à une solidarité, à un partage avec l'autre ?
Oui.
C'est la règle fondamentale.
Mais vous savez, je suis un humaniste et je crois qu'on peut y arriver, mais que petit à petit, on va être obligé de s'en y arriver, mais malheureusement, ça sera... Je vois pas comment on peut s'en sortir avec un paradigme économique et politique qui repose uniquement sur l'augmentation de la croissance. Je vois pas comment on peut sortir de ça. Je suis pas vert, mais j'estime qu'il doit y avoir une vraie préoccupation idéologique au centre et à droite. Quoi, voilà, et un nouveau modèle de société à proposer, et à mon avis qui passe par des règles de vivre ensemble beaucoup plus strictes que celles dans lesquelles on est actuellement. Voilà, c'est vraiment ma façon de penser et de voir les choses. Après, on peut réfléchir à la façon dont l'argent peut se partager, etc., etc. Et c'est même nécessaire, parce que sinon on va créer de l'animosité qui n'est plus supportable, on est d'accord. Mais au-delà de ça, il va vraiment falloir serrer la vis sur notre façon de vivre ensemble.
Ah, je voudrais qu'on en revienne, moi, au président de la République, à François Hollande. Et si vous deviez rattacher François Hollande à quelques grandes figures du passé de gauche, quelles seraient-elles ?
François Mitterrand.
Guy Mollet.
Ah, c'est pas mal. Bon, là, ça mérite de développer un peu. Bon, François Mitterrand, Guy Mollet, ça mérite de développer un peu. On va commencer par Guy Mollet. Alors.
Je suis un peu provoque, mais...
ça s'appelle provoscopie.
Non, mais si vous voulez, moi j'ai toujours... Alors vraiment,
Quel sera le Suez, alors, de François Hollande?
Bonne question, espérons que ce ne soit pas le Rhin. Mais justement, quand on parlait d'accord franco-allemand... J'ai toujours trouvé un vrai talent à François Hollande. Je me souviens l'avoir vu à la télé en 97, après la première université du PS. Et j'ai trouvé qu'il avait une faculté à synthétiser les opinions et les courants de pensée au PS qui était remarquable. Je souhaite qu'il puisse faire de même en France. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il a les moyens institutionnels pour le faire ? Je ne sais pas. Est-ce que les médias joueront le jeu ? Je ne sais pas. Est-ce que l'opposition peut le faire ? Je ne sais pas. Je souhaite qu'il y arrive. Parce que c'est son vrai talent. Et Guy Mollet, finalement, dans cette gauche un peu consensuelle et pas forcément révolutionnaire, me paraît être un exemple pertinent.
Et François Mitterrand, au-delà de la gestuelle, parce qu'effectivement, François Hollande, pendant la campagne, il y a une gestuelle mitterrandienne.
Moi qui suis mandésiste jusqu'au bout des ongles, Guy Mollet, c'est une provocation. Parce que vraiment, c'est un homme politique qui, pour moi, a plombé la gauche pendant de très nombreuses années.
Alors, non mais François Hollande, Mitterrand, pourquoi ce rapport entre les deux ? hors le fait de la gestuelle.
Écoutez, d'abord, je pense que François Hollande a cette qualité d'être comme Mitterrand, fin politique.
Un renard, quoi. Oui,
un renard. Un malin. Ouais. Il ne faut pas oublier que cet homme, on lui donnait 3% il y a 4 ans. Moi qui aimais beaucoup à l'époque Strauss-Kahn, j'avais beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés à imaginer que François Hollande serait président de la République. Il a emporté les épreuves les unes après les autres, à la surprise un peu générale. Mmh. Et donc il est comme Mitterrand. Mitterrand en 81, n'oubliez pas que tout le monde pensait qu'il était foutu.
C'était Rocard.
On voyait Rocard.
Alors justement, à propos de Mitterrand, ce rapprochement entre François Hollande et Mitterrand, les femmes ont joué un rôle en marge de la cour politique au cours des siècles précédents. Le dernier avatar en est le tweet de la première dame de France. Est-ce que c'est pas une nouvelle dérive monarchique?
D'abord, sur les femmes, pour la première fois, il y a 155 femmes qui sont élues à l'Assemblée nationale.
Est-ce que c'est vraiment...
C'est une excellente chose.
Oui, mais c'est des vraies femmes?
Bien sûr que ce sont des femmes merveilleuses, militantes. Regardez les femmes qu'on a élues à Montpellier. Elles sont toutes pleines de qualités. Ça, c'est important. Alors que vous, les médias, vous vous intéressiez à la bêtise qu'a faite la compagne du président de la République, parce que c'est une grosse bêtise. Hein, ça n'avait rien à faire dans la campagne électorale.
Ah, hein. C'était pas orchestré un peu les bureaux de l'Élysée.
Arrêtez d'imaginer que ce soit machiavélique comme ça.
C'est un problème de jalousie entre femmes.
Mais c'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle n'avait pas à le faire. Hein, et le sort qui a été réservé.
Il faut appliquer les théories de Julien Devez, la fessée.
Non, faut pas appuyer la fessée. C'est leur problème de couple. J'espère qu'ils vont le régler intelligemment entre eux. Mais c'est une connerie. C'est la réflexe normal de ces parisiennes, parce qu'elle est parisienne, hein, de la presse bobo,
c'était quand même le meilleur moyen pour que Ségolène Royal n'accède pas au perchoir.
Mais bien sûr.
Vous pensez que le poids de Trier-Veller politique est aussi important que ça? Moi, je pense que Falorni aurait été élu quoi qu'il arrive. Et que finalement, l'assentiment de la tout cœur du président de la République, franchement, les Rochelais s'en tamponnent. Ce qu'ils ont dû reprocher à Ségolène Royal, c'est certainement s'être élu avant même d'être élu, le pousse-toi de là que je m'y mette, etc. etc. Je crois que là-dessus, il y a une explication. Après, moi, plus que ces histoires de tweets, le côté monarchique de la présidence de la République, ça fait malheureusement, c'est pas lié uniquement aux femmes, c'est pas nouveau. Mais seulement aujourd'hui, ça nous éclate en pleine figure parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir à la présidence de la République. À quoi sert, je repose la question, à quoi sert une Assemblée nationale où finalement...
On y viendra dans la troisième partie de l'émission.
Okay.
Parce qu'à mon avis, il reste encore un contre-pouvoir. Mais on en parlera un petit peu après. Juste pour terminer cette deuxième partie où on a fait un peu de retour en arrière, quelles seraient, d'après vous, les lois, décrets et règlements mis en œuvre depuis 2002 qu'il faut impérativement, dans les meilleurs délais, abroger?
Écoutez, il faut abroger le plus rapidement possible la TVA sociale, hein, qui a été décidée, qui va payer
la TVA.
Qui n'a
rien de social.
La
hausse de la TVA.
Mais on est obligé de repenser. Si on veut aller dans la logique que je décrivais tout à l'heure, on est obligé de repenser notre mode de fiscalité. On ne peut pas continuer à faire peser uniquement nos charges sociales sur le travail. Le travail, c'est ce qu'on a le moins. On surconsomme. Donc faisons peser nos charges sur la consommation. C'est la TVA. Voilà.
Donc ça a abrogé. Mais quoi d'autre encore, c'est tout? Je pense par exemple les lois Perben qui ont institué.
Écoutez, si vous pensez que la priorité des priorités, c'est de détruire ce qui a été fait avant, la priorité des priorités, c'est de construire. D'avoir une orientation, d'avoir des projets clairs.
Donc en fait, la gauche, vous êtes quand même content de ce que la droite a fait, que vous n'aviez pas été capable de faire avant, comme ça vous le gardez.
Arrêtons ce manichéisme, tout ce qui est à gauche est bien, tout ce qui est à droite est mauvais. Il y a des décisions qui ont été prises, qui ne sont pas obligatoirement
à rejeter. La privatisation des universités, c'est bien ça?
C'est pas la privatisation des universités, c'est l'autonomie des universités.
Tout le monde reconnaît que c'est une bonne chose.
Tout le monde reconnaît.
C'est certainement la réussite.
C'est ça qu'on appelle le pragmatisme politique.
Non, c'est le réalisme, c'est l'intérêt général. Moi, je trouve qu'il faut défendre l'intérêt général.
La suppression de l'histoire géo au bac en terminale, c'est bien ça?
Ça, c'est une erreur. Il faut continuer à faire les...
Ah donc, il faut l'abroger. Donc, faut
l'abroger. Oui, mais ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais en plus, là, je vous le dis, effectivement, c'est une erreur, l'histoire géo. Moi qui ai fait S, heureusement que j'avais l'histoire géo au bac, sinon je n'aurais pas pu faire.
La question fondamentale, si je vous ai écouté tous les deux, c'est quand même la réforme fiscale.
Oui, absolument.
Absolument.
Donc, logiquement, ça devrait être la première grosse mesure de François Hollande.
C'est ce qu'il faut qu'il fasse avant le 1er septembre ou le 1er octobre. Et la révision des finances des collectivités locales. Hein, on est aujourd'hui dans une situation...
Oui, parce que la loi sur la réforme des collectivités territoriales, il faut l'abroger ou il ne faut pas l'abroger ?
Elle va être abrogée, bien entendu, mais pas complètement, hein, si vous l'avez bien écouté. Hein, il y a des choses qui vont être abrogées, d'autres qui vont être maintenues. De toute façon, là aussi, il faut qu'on ait le courage de dire les choses franchement. Il y a trop de millefeuilles en France. Il y a trop de collectivités locales. Hein. De Gaulle, il a été battu parce qu'il a voulu supprimer le Sénat. Chaque fois... Hein, qu'un homme d'État ou un chef d'État essaye de faire avancer les schmilblicks, les élus le font battre. Il faut arrêter ce système-là. Hein. Sarko, il n'est pas allé jusqu'au bout. S'il avait appliqué le rapport Attali, il allait beaucoup plus loin que ce que Sarko a proposé.
Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut supprimer Montpellier pour laisser la place à l'agglo.
Il faut une grande agglomération, bien entendu, dans le cadre de la mondialisation.
Ça joue plus sur le département et les régions. Bah, c'est là où il y a vraiment
sur
les économies.
Département et les régions.
Vésiné dehors, Bourquin.
Mais c'est pas Vésiné dehors ou Bourquin.
Qu'est-ce que je comprends pas dans le retour le projet de nouvelle réforme territoriale de Hollande, c'est qu'apparemment il veut faire élire tout le monde, y compris les conseils généraux, à la proportionnelle. Alors si, moi qui suis pourtant un ardent défenseur de la proportionnelle au niveau national, parce que je pense que notre pays a des idées politiques qui méritent d'être exprimées de façon plus fine que ce que ça allait actuellement. Mais dans les départements et les régions. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir, à la limite presque, si le mec est de gauche ou de droite, il y a une bonne et une mauvaise gestion. Arrêtons de faire du tripatouillage comme ça. Je trouve que... Et on a besoin d'avoir des élus qui soient ancrés.
La gauche et la droite, c'est pas la même chose.
Non, alors d'accord. Gauche-droite, j'ai été trop caricatural. Ouais, mais que le mec soit libéral ou démocrate chrétien, on s'en tape. Voilà,
mais
donc il n'y a pas besoin d'exprimer ça.
Si localement. Vous regardez bien la réalité locale, la communauté d'agglo devient incontournable. Hein, et l'intérêt des citoyens, et l'intérêt de la population, et l'intérêt des contribuables... Il faut qu'on ait une agglo forte, puissante, plus importante qu'elle est en territoire, et que les mairies, on les cantonne dans des
mairies
prestations.
Mairies d'arrondissement, en fait.
Bah, bien sûr. Non, mais c'est ce qui se fera dans 20 ans ou 10 ans.
Want to sign check, c'est okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.